Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices. C'est Hervé Cheuseville à l'antenne. Je suis heureux de vous retrouver, même si je ne vous ai jamais laissé durant mes pérégrinations. Je suis parvenu à enregistrer là où je me trouvais des petites émissions afin de ne pas interrompre le rythme de notre rendez-vous, de nos rendez-vous hebdomadaires. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler un petit peu de l'actualité, mais avant cela, quelques mots à nouveau de la Tunisie, puisque je suis rentré la semaine dernière de Tunisie. Lorsque j'ai enregistré la dernière émission, je n'avais pas encore eu la nouvelle, parce que je l'avais enregistrée au milieu de la Méditerranée sur le bateau, donc j'étais coupé du monde. Et je n'avais pas encore reçu la nouvelle de l'attentat terroriste contre le pèlerinage juif de la Griba à Djerba. Alors naturellement, dès que j'ai eu la nouvelle, j'aurais voulu modifier mon émission, mais ce n'était pas possible. J'étais en voyage et je n'ai pas pu ajouter quoi que ce soit. Mais naturellement, j'ai été très choqué par cet attentat. Je rappelle les faits. Je ne sais pas si on en a beaucoup parlé dans l'actualité française, mais je rappelle les faits. Chaque année a lieu le pèlerinage de la Griba. La Griba, c'est la plus ancienne synagogue d'Afrique. Et la communauté juive de Djerba, cette île du sud de la Tunisie, est très ancienne. Elle serait, si l'on en croit la tradition orale et certaines traces écrites également, elle serait plus ancienne, bien sûr, que la présence arabo-musulmane en Tunisie. Elle serait au moins aussi ancienne que la destruction du temple de Jérusalem, et peut-être, certains disent, plus ancienne encore. Et depuis 2000 ans ou plus, il y a une communauté juive à Djerba qui était parfaitement intégrée et qui vivait aux côtés de la majorité musulmane de l'île. Je ne dirais pas qu'il n'y a jamais eu de mariage entre juifs et musulmans, bien sûr, donc chacun restait de son côté, mais sans animosité. Et les juifs de Djerba vivaient tout à fait comme les autres habitants de l'île. Seule la religion les différenciait. C'est donc une communauté qui est différente de celle de Tunis et d'ailleurs en Tunisie, qui, elle, est plus récente. On les appelle, ceux-là, les juifs livournais, parce qu'ils ont la réputation d'être venus de Livourne vers le XVIIIe siècle, pour s'installer à Tunis, où ils sont devenus de prospères commerçants. Avec la création de l'État d'Israël et l'indépendance de la Tunisie, beaucoup de ces juifs livournais ont quitté la Tunisie pour aller s'installer soit en France, soit en Israël. Mais quelques centaines, quelques milliers sont restés en Tunisie. Et ceux de Djerba, qui, comme je l'ai dit, était totalement assimilé et qui vivait comme leurs voisins tunisiens musulmans ou djerbiens musulmans, ceux de Djerba sont restés, même si peut-être que certains sont malgré tout partis. Mais à Djerba est demeurée une communauté relativement importante. Et autour de cette synagogue, donc la plus ancienne d'Afrique, la plus vieille d'Afrique, et chaque année a lieu ce pèlerinage de la Griba qui attire des juifs, je serais presque tenté de dire, du monde entier, mais ce sont donc des juifs tunisiens à l'origine, mais pas seulement, qui viennent de France et d'ailleurs, et même d'Israël. Alors, chacun d'entre vous savait ce qu'il s'est passé en Tunisie ces dernières années, la révolution dite du jasmin, l'instabilité politique, les attentats terroristes, etc., le Covid, bien sûr, comme partout ailleurs, ce qui fait que le secteur du tourisme en Tunisie était vraiment en piteux état. Et là, durant mon séjour, j'ai constaté que enfin le tourisme redémarrait. Tous les Tunisiens avec lesquels j'ai pu discuter de ce sujet étaient pleins d'espoir. Les bateaux de croisière commençaient à nouveau à faire escale en Tunisie, alors qu'ils l'avaient interrompu pendant plusieurs années. Et donc, bon, le sourire revenait, je dirais, tant chez les boutiquiers que les hôteliers et que les acteurs du secteur du tourisme. Le tourisme joue depuis longtemps un très grand rôle dans l'économie tunisienne. Et le pire est à nouveau arrivé. Alors, que s'est-il passé ? C'est un garde national, c'est-à-dire l'équivalent d'un gendarme, qui, rien ne laissait déceler son radicalisme, qui a retourné son arme d'abord contre ses collègues. Il en a tué trois gendarmes tunisiens, trois gardes nationaux tunisiens ont été tués, et deux pèlerins. Alors, qui sont d'ailleurs deux cousins, ils font partie de la même famille, mais l'un était de nationalité tunisienne, tandis que l'autre était de nationalité française. Donc 5 morts, plus un sixième, c'est le terroriste, qui a été abattu par ses collègues. Alors naturellement, cette nouvelle est catastrophique. Tous les Tunisiens avec lesquels j'ai pu discuter depuis, par téléphone ou par WhatsApp, sont catastrophés par cet attentat qui risque de compromettre le timide redémarrage que l'on avait constaté dans le secteur du tourisme. D'ailleurs, lorsque nous sommes arrivés à Sfax il y a 10 jours, la maison d'hôte où nous avions logé venait de recevoir un groupe de pèlerins juifs, dont certains étaient israéliens, ce qui est quand même incroyable pour la Tunisie, un pays qui ne reconnaît pas Israël. Et ils étaient en route pour Djerba. Et ils avaient séjourné dans cette maison d'hôte. Donc, je ne les ai pas rencontrés, puisque nous sommes arrivés le jour de leur départ. Mais donc, la responsable de cette maison d'hôte était très contente d'avoir accueilli des Juifs tunisiens. Et elle était pleine d'espoir pour la suite. Elle espérait recevoir à nouveau des pèlerins du pèlerinage de la Griba. Et est arrivé ce qui est arrivé. C'est un événement très triste. Et je profite, bien sûr, de cette émission pour adresser mes pensées émues à la fois à la communauté juive, toute la communauté juive, en tout cas celle qui fait ce pèlerinage chaque année à la Griba, à la communauté juive de Tunisie, mais aussi bien sûr aux familles de ces gendarmes, de ces gardes nationaux tunisiens. Voilà ce que je pouvais dire, c'est une note un peu triste qui est venue clôturer un voyage magnifique que j'ai pu effectuer en Tunisie. Alors, après ce voyage en Tunisie, nous sommes donc rentrés en bateau depuis le port de la Goulette jusqu'à Marseille. Ça fait quand même 26 heures de traversée. Et en France continentale, j'ai emmené mes parents à un rassemblement d'anciens sfaxiens, c'est-à-dire d'anciens habitants de la ville de Sfax, d'anciens habitants européens. C'est un rassemblement qui, normalement, a lieu chaque année. Et là, cette année, il avait lieu dans la région de Sète. Et nous avons passé 3 jours, donc, à rencontrer d'anciens sfaxiens. Certains étaient des cousins, d'autres étaient des relations de mes parents qu'ils avaient perdu de vue depuis très longtemps. Donc ça a été là aussi beaucoup d'émotions, beaucoup de retrouvailles. Pour ma part, qui ne suis pas né à Sfax, j'en garde malgré tout un sentiment mitigé parce que j'ai trouvé que beaucoup de ces anciens sfaxiens vivent un peu trop tournés vers le passé. La Tunisie est indépendante depuis 1956. La période qui a précédé cette indépendance coïncidait naturellement avec la jeunesse de tous ces gens et qui ont tendance à considérer cette période comme la plus belle partie les plus belles années de leur vie, bien sûr. Ils ont tendance à idéaliser quelque chose qui ne devrait pas être idéalisé malgré tout, parce que c'était la période coloniale, une période marquée par l'injustice, le racisme, une certaine discrimination vis-à-vis des Tunisiens de souche. Et j'ai regretté que cette association, qui existe depuis longtemps, n'ait jamais songé, par exemple, à s'engager dans un projet que je ne dirais pas humanitaire, mais au moins culturel, envers la nouvelle génération de Sfaxiens. Je pense en particulier à un centre culturel ou un centre d'apprentissage. Ça aurait été un beau geste. Ce geste n'a pas encore été accompli. J'espère qu'il le sera un jour. Après ces 3 jours passés dans la région de Sète, nous nous sommes arrêtés à Marseille, où j'étais invité à m'adresser à un grand groupe d'élèves de seconde, première et terminale au lycée Nelson Mandela, qui se trouve dans le nord de la ville de Marseille. C'est la deuxième fois que je fais une intervention dans ce lycée, et chaque fois je suis saisi d'admiration devant ce magnifique lycée ultra-moderne. Je me dis que les conditions dans lesquelles j'ai pu étudier au lycée il y a combien, 40, 50 ans, n'ont rien à voir avec les conditions dans lesquelles les jeunes d'aujourd'hui, en tout cas ceux qui vont à ce lycée Nelson Mandela, ont la chance d'étudier. C'est merveilleux. J'ai pu parler dans une sorte d'auditorium avec tous les moyens audiovisuels à ma disposition. C'est extraordinaire. Je suis toujours saisi de surprise et d'admiration face à la modernité des établissements scolaires modernes. Malheureusement, nos jeunes ne se rendent peut-être pas compte de la chance qu'ils ont d'étudier dans de telles conditions, avec des moyens audiovisuels, des moyens pédagogiques modernes. Et je ne peux pas m'empêcher de penser aux écoles que j'ai pu connaître en Afrique ou à celles que j'essaye de monter là-bas au fin fond de l'Amazonie. Quel contraste. Et là-bas, tant en Afrique qu'en Amazonie, les élèves ont la soif d'apprendre, ont la soif d'étudier et acceptent des conditions d'apprentissage déplorables. Tandis que en France, malheureusement, les élèves ont parfois tendance à considérer l'école comme une corvée. C'est là tout le paradoxe, un paradoxe qui me saisit chaque fois que je suis amené à intervenir dans un établissement scolaire en Europe. L'actualité des derniers jours a été marquée par la nouvelle visite du président ukrainien Zelensky, qui, il faut le noter, a été reçu par le pape. Je m'en suis pour ma part réjoui, parce que je reste persuadé qu'une personnalité telle que le pape peut ou pourrait jouer un rôle, si les deux parties, bien sûr, l'acceptaient comme médiateur. Et je suis persuadé que la diplomatie vaticane est à l'œuvre, secrètement, certainement. Mais bien sûr, c'est toujours très difficile d'essayer de non pas de s'ingérer, mais oui, de s'ingérer dans des affaires avant tout orthodoxes, puisque rappelons quand même que les deux protagonistes de cette tragédie sont orthodoxes des deux côtés. Le pape sera-t-il entendu? Je n'en sais rien, mais peut-être que c'est une carte à jouer pour essayer de régler ce conflit qui n'a que trop duré et qui a fait beaucoup trop de victimes et de destruction du côté ukrainien. Donc, je forme les vœux pour que la diplomatie vaticane puisse parvenir à obtenir des résultats pour qu'au moins les deux protagonistes acceptent de s'asseoir autour d'une table et de discuter. Dans mon intervention au lycée de Marseille, j'ai évoqué le drame de l'Artsakh, du Haut-Karabakh, qui se poursuit, alors là, dans le silence total des grands médias. Cela fait maintenant plusieurs mois que le corridor de la Chine est fermé en toute illégalité par les forces azerbaïdjanaises et que 120 000 Artsakhiotes sont coupés du monde, coupés de l'approvisionnement, que les hôpitaux de l'Artsar, c'est-à-dire du Haut-Karabakh, ne reçoivent plus de médicaments de l'extérieur et que les patients dans un état grave ne peuvent plus être évacués vers des hôpitaux arméniens. Alors, je saisis cette occasion pour à nouveau exprimer mon indignation et me faire le porte-voix des Artsakhiotes qui regrettent qu'on ne parle pas autant de la tragédie qu'ils vivent que celle qui frappe le peuple ukrainien. On ne doit pas avoir de l'indignation sélective, et si ce que fait la Russie en Ukraine ne peut que susciter l'indignation, il faut aussi mentionner ce que fait l'Azerbaïdjan envers le peuple arménien, que ce soit le peuple arménien de l'Artsar, que le peuple arménien d'Arménie, puisque chaque jour, il y a des accrochages sur la frontière et chaque jour, il y a des morts, mais on n'en parle jamais. Alors, le dernier développement, c'est que Charles Michel, le président de la Commission européenne, a réussi à réunir autour d'une même table, le premier ministre arménien, Nikol Pachinian, et le dictateur azerbaïdjanais, Ilham Aliyev. Qu'est-ce que ces discussions ont donné? Je n'en sais rien, il est trop tôt pour le dire, mais c'est toujours un signe encourageant de voir les deux ennemis assis autour d'une table. Même si j'ai des doutes quant à l'efficacité de la diplomatie européenne, qui est surtout préoccupée par l'approvisionnement en gaz et en pétrole de l'Europe, du fait de l'interruption de l'approvisionnement en Russie, et qui a donc trouvé dans l'Azerbaïdjan un nouveau partenaire. Donc je me pose des questions quant à la neutralité européenne en ce qui concerne ce conflit qui lui aussi n'a que trop duré. Pour terminer, je voudrais dire deux mots sur les inondations. Les inondations qui frappent différents pays du monde. Alors par ordre chronologique, je voudrais parler de celles qui ont frappé le Rwanda. On parle de mémoire 150 morts au moins. Et puis ensuite, celles qui ont frappé le Sud Kivu, la région de Bukavu, où là, il y aurait eu des centaines, peut-être 500 morts, des gens qui ont été emportés par des glissements de terrain, par les flots en furie, les maisons emportées, des gens qui ont tout perdu. Donc j'en parle aujourd'hui parce que je sais que nos grands médias français et occidentaux en ont très peu parlé, à l'exception notable, bien sûr, de Radio France Internationale. Donc une pensée pour toutes ces victimes dont on ne parle pas, tant au Rwanda qu'en République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, les inondations ont également frappé d'autres, des inondations différentes, bien sûr, d'autres contrées, puisqu'un gros, violent cyclone vient de toucher la Birmanie et le Bangladesh, là aussi faisant beaucoup de dégâts et beaucoup de victimes. Et de cela aussi, nos médias n'en ont pas parlé ou très peu. Les inondations ont aussi frappé l'Italie. Et j'ai aussi une pensée, naturellement, pour les victimes en Italie, puisqu'il y a eu, on parle de 7 ou 8 morts, en Émilie-Romagne. Voilà, chers amis auditeurs, je suis heureux de vous avoir retrouvés. Et je suis désolé pour cette émission qui part un peu dans tous les sens, mais j'ai tenu à parler de tous ces événements, surtout que encore une fois, nos grands médias en ont très peu parlé, et j'ai tenu, bien sûr, à rattraper le temps perdu, en ce qui me concerne en tout cas, pour faire le point de l'actualité avec vous et pour parler de tous ces événements brièvement, trop brièvement, mais je reviendrai sur certains d'entre eux dans les semaines à venir, dans nos prochains rendez-vous. Je vous souhaite une bonne période de l'Ascension, une bonne fête, et je vous dis à la semaine prochaine.